Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Le Festival de Cannes fait son cinéma dans deux jours. Mercredi débutera la 69e édition du plus grand festival du cinéma du monde, tout simplement.
Ah, ça, on peut le dire.
On peut le dire, à cette occasion. On a eu envie de vous raconter la création de cet événement. On s'est dit, c'est vrai qu'on le suit depuis des années, mais comment toute cette histoire a commencé? Et on s'est rendu compte que la toute première édition n'avait pas eu lieu. Et ça, ça a titillé notre curiosité. Bonsoir, Olivier Loub.
Bonsoir, merci beaucoup.
Soyez le bienvenu, vous êtes historien et bienvenue chez nous.
Merci.
Vous publiez Cannes 1939, le festival qui n'a pas eu lieu, c'est aux éditions Armand Collin. Alors tout était prêt à Cannes, fin août 1939, pour accueillir ce premier festival.
Tout était prêt, tout, eh bien la guerre se déclenche.
Mais alors qu'est-ce qui est prêt? Tout est prêt.
Tout est prêt, ça signifie
les petits fours, les stars, on va prendre le temps de raconter l'histoire.
On est à trois jours, c'est le 29 août qu'un communiqué du ministère de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, on y reviendra, vient interrompre et dire le festival qui était prévu pour se tenir du 1er au 20 septembre est ajourné. Et cet ajournement durera 7 ans de réflexion pour un festival de cinéma. C'est une belle chose.
Bien trouvé. Donc 1946, ce qu'on va découvrir, c'est la même base, les mêmes bases, ce sont les mêmes bases que ce qui avait été prévu 7 ans auparavant,
en 39. Oui, en 1946, tout redémarre et pourtant rien n'est pareil. Tout redémarre parce que c'est le même règlement. Tout redémarre parce que ce sont les mêmes accords entre les Français et les Américains en particulier. Tout redémarre parce que les situations de tension internationale sont là aussi, sauf qu'elles redémarrent sur une autre base, c'est la guerre froide. Alors qu'en 1939, on a une guerre froide antifasciste. Là, c'est une guerre froide entre les deux grands. Donc, tout est pareil et tout est différent en 1946.
Et puis finalement, depuis 1946, le festival n'a jamais été suspendu?
Ah si, il a été deux fois. Il ne s'est pas produit deux fois, c'est 48 et 50 pour des raisons financières. Et en 1968, il a démarré, mais il a été arrêté par le grand mouvement des Godard et des Truffaut.
Alors on est très curieux avec Thomas et la rédaction de La Curiosité. On est curieux des mots. Et ce mot festival, on s'est dit, mais il vient d'où?
C'est un mot anglo-saxon. C'est très intéressant d'ailleurs à noter. Avant Cannes, aucune manifestation culturelle, qui soit cinématographique ou même qui soit musicale, ne porte ce nom de festival. Puisque par exemple, la première manifestation cinématographique, c'est celle de Venise. Mmh. Et elle s'appelle Mostra. Mostra, ça veut dire exposition. On montre des films. Mmh. Ils sont en compétition au bout d'un certain temps. C'est pas vrai dès 1932, mais dès 34, ça vient. Festival, c'est un mot qui vient plutôt du répertoire sacré, religieux, anglo-saxon.
Et ça porte quoi comme notion finalement à l'événement?
Ah là, pour ce cas-là, on voit bien l'influence anglo-saxonne, on va le dire comme ça. On voit bien l'idée qu'il s'agit de rompre aussi avec la Mostra. Mmh. D'ailleurs, jusqu'à 1939, et même très loin dans 39, jusqu'au début du mois de juin 1939, lorsqu'il s'agit de décrire un autre festival de cinéma, on n'emploie pas le mot de festival, on emploie par mimétisme le mot italien qui est celui d'exposition, traduit en français, mais c'est la Mostra, où on parle de manifestation de cinéma. Il faut vraiment attendre la toute fin du mois de mai, le début du mois de juin, pour dire il s'agira d'un festival. C'est un label déposé dès juin 39.
Dès juin 39 pour ce premier festival qui n'a pas eu lieu. C'est votre livre Cannes 39, publié chez Armand Collin, Olivier Loub. Là, je vous écoute et je me dis, finalement, le cinéma, c'est de la politique.
Oh oui, c'est de la politique, c'est de l'industrie et c'est de l'art. Les trois à la fois. Et dès le début de l'histoire du cinéma, regardez, Louis Lumière, que nous appelons inventeur du cinéma, c'est un industriel. Mmh. Pourquoi le cinéma prend-il un tel essor? La Première Guerre mondiale. Parce qu'à ce moment-là, les armées en particulier se rendent compte de l'importance pour les masses de la diffusion du cinéma.
C'est un outil de propagande.
C'est un outil de pénétration, pour le dire de nos jours, du cerveau, si vous voulez, de temps disponible du cerveau pour aller vers des références plus récentes. Mais c'est un outil formidable, parce que l'image est un outil formidable pour toucher la majorité de la population, bien sûr.
Olivier Loub, ça veut dire que concrètement, cette création du festival en 1939, c'est pour concurrencer la Mostra de Venise, qui est devenue fasciste?
Oui, Cannes 1939, c'est une contre-Mostra 1938. Très clairement. Pourquoi? Parce qu'en 1938, la règle du jeu, parlons comme Renoir, la règle du jeu change à Venise sans qu'on l'ait vu venir. Jusqu'à 1937, la Mostra, en effet, produit des palmarès qui sont des palmarès qui mettent en avant le meilleur film de l'époque, tel qu'on le pense. Alors ça s'appelle la Coupe Mussolini, mais il n'empêche qu'il peut y avoir des films français, des films américains, des films anglais. En 1938, coup d'arrêt brutal, le palmarès est téléguidé depuis Berlin par Goebbels. Et ça, ça devient inacceptable.
Qui remporte le Grand Prix de la Mostra?
Bien, cette année-là, c'est un double Grand Prix, une double coupe Mussolini. D'un côté, Luciano Serra, Pilote, qui est un film fasciste. De l'autre, Les Dieux du Stade, de Leni Riefenstahl. Formidable film, mais nazi.
Dont on entend la bande originale, d'ailleurs. Et en France, finalement, Olivier Loup, est-ce que tout le monde est persuadé du bien fondé de cette contre-Mostra, de ce festival qui va contrer la Mostra fasciste?
Ça a été un combat, ça a été un débat. Il y a eu plusieurs batailles de Cannes, mais la première est en 1939. C'est pas celle de 1968 qui lance l'affaire.
Mais pourquoi? Pour des raisons politiques? Faut ménager un allié italien? C'est quoi la
vraie raison? C'est la guerre. La question, c'est au fond, est-ce que on doit ou pas ménager non pas l'allié italien, mais l'ennemi potentiel hitlérien ou italien. La question que se posent les gens à partir de Munich et autour de Munich, c'est au fond, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut, comme le pense Jean Zay, qui sera le premier président du Festival de Cannes, dire que des démocraties sont des forces aussi, des puissances, et que, attention, si vous faites la guerre, nous sommes une puissance culturelle aussi, avec laquelle il faudra compter. Pour Jean Zay, il s'agit de montrer la force pour ne pas faire la guerre. Pour Georges Bonnet, qui suit l'exemple anglais de Chamberlain et de l'appeasement de Chamberlain, c'est de dire ne fâchons pas les dictateurs parce que sinon nous aurons la guerre.
Une contre-Mostra, parfait, en 1939, mais pourquoi à Cannes et pas à Biarritz ou au Mans? On en parle tout de suite, les curieux.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
À deux jours de l'ouverture de la 69e édition du Festival de Cannes, on vous raconte dans la curiosité pourquoi la toute première édition en 1939 n'a jamais eu lieu. Et c'est l'historien Olivier Loub qui nous sert de guide. On a compris que c'était le déclenchement de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, qui avait empêché ce premier Festival de Cannes d'avoir lieu. Mais quand même, l'idée naît à ce moment-là. Comment elle naît? Elle naît où et comment?
Elle naît à Venise en 1938, on vient de le dire. Mais elle naît, j'allais dire, à la fois dans le gouvernement français, jusqu'à Philippe Erlanger, un de ses représentants à Venise. Et elle naît de l'autre côté de l'Atlantique, dans les studios américains.
Alors, Philippe Erlanger, vous l'avez cité, c'est qui?
Philippe Erlanger, à l'époque, est un des représentants de la France à Venise. Il est aussi...
Donc pour la Mostra, pour le Festival du Film.
Pour la Mostra, pour le Festival du Film. Mmh. Il est aussi un haut fonctionnaire. En particulier, il est à la tête d'une agence interministérielle qui s'appelle l'Association française pour la culture, pour la promotion de la culture à l'étranger. Et à ce titre-là, évidemment, il est un des acteurs de la culture telle qu'elle est une diplomatie.
Alors vous dites que c'est un couple donc français, on l'a bien compris, avec Philippe Erlanger et avec les Américains. C'est quoi l'intérêt ou les intérêts américains de soutenir un festival en Europe et en France?
Mussolini a commis deux crimes de lèse-majesté par rapport au libéralisme américain. Un crime de lèse-majesté par rapport au libéralisme politique, le contrôle du palmarès pour donner les prix à des fascistes et à des nazis, et un crime de lèse-majesté économique, le libéralisme est aussi économique, nous le savons bien, lorsqu'il décide le 13 septembre 1938, par un décret, de faire que toutes les importations de films, c'est-à-dire essentiellement des films américains, passent désormais sous la houlette d'une commission étatique fasciste. Dès lors, le business américain n'a plus de profit à faire en Italie. C'est la double rupture, elle est fondamentale. Les Américains se seront les plus opposés à Venise jusqu'au bout. Donc, les plus favorables à la création d'un festival en Europe.
Donc ils mettent tout leur poids dans la création du festival de Cannes avec un homme important, il s'appelle Harold Smith. Est-ce que vous pouvez nous le présenter?
Alors, vous avez raison d'appeler votre émission La curiosité est un vilain défaut. Cet Harold Smith est un oublié de l'histoire. C'est un inconnu de l'histoire. Qui est-il? Il est le représentant en France de l'organisation ICE. L'organisation ICE, c'est le syndicat des producteurs américains. On la connaît en France parce qu'elle a produit ce qu'on appelle le code ICE, le fait qu'on ne voyait pas les acteurs et les actrices s'embrasser à l'écran. Hein, c'était de l'autocensure, en fait, du cinéma pour éviter d'être en procès. L'organisation du cinéma américain s'était dotée d'un propre syndicat pour empêcher qu'il soit en procès.
Garder une forme de liberté presque contrôlée, quoi.
Et ouais. Ça les protège. Mmh. Ça les protège à l'américaine. C'est-à-dire, laissons l'État en dehors de ça, laissons les tribunaux en dehors de ça, mais nous, organisons-nous. Et aussi pour exporter des films.
Et donc, ce Harold Smith, il va négocier avec un Français.
Avec un Français, avec le gouvernement français, en fait. Il négocie avec Jean Zay, en fait, en direct. Par le truchement de Philippe Erlanger, mais c'est bien un accord. La création de Cannes est bien le fruit d'un couple, l'État français, Zay-Erlanger, et les studios américains, Harold Smith.
Et alors, si Denis disait tout à l'heure, pourquoi Cannes et pas Biarritz ou Le Mans? Donc, je ne sais pas pourquoi elle voulait parler du Mans, qui est une ville qui a une grande tradition
ou
cinématographique.
Van, ou
ah, voilà, c'est ça. Non, parce que la vraie concurrence, c'était Cannes et Biarritz.
Oui, bien sûr. La vraie concurrence, c'était Cannes, Biarritz et Alger. qu'on ne cite plus jamais, à juste titre, parce qu'on l'a oublié, mais enfin, le président du conseil de l'époque, Édouard Daladier, qui est fondamental, sans lui, le festival de Cannes n'existerait pas, hein, préférait Alger pour contrer les ambitions géopolitiques méditerranéennes de Mussolini, qui à l'époque revendique la Tunisie, la Corse. Et donc, ce que dit le président du conseil, Édouard Daladier, avec Alger, on montre bien aux Italiens que c'est une contre-mostra en Méditerranée que la Méditerranée française. Bon,
Alger, non.
Non, Alger, non, et ça n'a pas été soutenu durablement.
Et Biarritz, alors ?
Biarritz, en revanche, pendant une semaine, le Festival international du film, c'est le label, dès le départ, est censé se tenir à Biarritz. Les journaux l'annoncent, tous les journaux l'annoncent, et ça ne se fait pas.
Mais qu'est-ce qui fait basculer alors ce choix géographique du festival ?
Une affaire d'argent, il faut bien le dire, et une affaire aussi de volonté et de lobbying. Il se trouve que les hôteliers cannois et le maire de Cannes, Pierre Nouveau à l'époque, sont tout à fait convaincus qu'il faut que le festival se fasse à Cannes. Ils mettent les moyens, à la fois en argent et en influence auprès du gouvernement.
Et donc, ils vont obtenir l'organisation de ce premier festival international du film à Cannes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont tellement de pouvoir, les hôteliers cannois, qu'ils vont jusqu'à choisir la date. Ça va jusqu'où, leur influence ?
Alors, il ne faut pas exagérer ce pouvoir, mais il faut bien voir que pour la date, effectivement, il y a deux éléments qui se conjuguent. Les hôteliers cannois ont envie de prolonger la saison qui s'arrête fin août, traditionnellement, par 3 semaines. À l'époque, le festival La Mostra à Venise et celui de Cannes duraient 3 semaines. Donc le prolonger 3 semaines en septembre, donc gagner un mois. Mais il y a aussi le gouvernement qui est sensible, parce qu'il n'est pas prêt. On n'est pas prêt. La décision se fait le 25 mai, autour du 25 mai. Prévoir déjà un festival le 1er septembre, c'est un exploit.
Alors justement, en mai, fin mai 1939, la décision de créer ce festival à Cannes, on a choisi la ville, est entérinée. C'est un timing très serré, vous l'expliquez Olivier Loub. 2 mois pour tout organiser, qu'est-ce qui va précipiter les choses ?
Ce qui précipite les choses, c'est qu'effectivement, il faut le faire quand même dans la saison. Si on le fait en octobre ou en novembre, plus personne ne sera là. Donc, il n'y aura pas ce que Cannes est dès le départ, c'est-à-dire un événement mondain aussi. Il ne faut pas oublier que c'est une fête dès le départ. La Mostra était une fête au Lido, hein, sur le Lido de Venise, vous imaginez ce que ça pouvait donner. Et d'emblée, l'idée, c'est de faire de la French Riviera, un cinéma sur la French Riviera, où viennent d'ailleurs déjà les vedettes. Donc, il ne faut pas le faire en octobre ou en novembre, il faut le faire en septembre, le plus proche possible. Donc, c'est pour ça qu'on veut le faire là.
Et puis, il y a la guerre qui approche. Est-ce que ça joue dans l'accélération du calendrier, ça ?
Il y a un sentiment d'urgence en 39, ça c'est évident. Est-ce que l'idée que la guerre va se déployer le 1er septembre existe en mai ? Non. Voilà, l'urgence est là, la date non.
L'invasion de la Tchécoslovaquie, ça influe sur certaines décisions peut-être ?
Oui, ce sur quoi influe l'invasion de la Tchécoslovaquie et celle de l'Albanie par l'Italie, qu'on oublie souvent et on peut comprendre pourquoi, ça influe sur le fait que désormais les Munichois sont battus. C'est-à-dire ceux qui pensent qu'il faut apaiser les dictateurs ont perdu la bataille.
Tout de suite après les informations, on continue de vous raconter ce festival de Cannes qui n'a jamais eu lieu, ce tout premier. On va vous parler justement de ces préparatifs.
Et puis dans la seconde partie de l'émission, on découvrira les photos qui ont marqué la vie et la carrière de François Mitterrand, 35 ans après sa victoire présidentielle. C'est, vous le verrez, le rédacteur en chef photo de Paris Match qui nous ouvrira les archives du magazine. Tout de suite, c'est l'heure des infos. RTL, il est 21h.
RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur RTL. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. On est ravis de vous accueillir pour encore une heure d'histoire incroyable, de secrets palpitants et de destins hors normes.
Tiens, comme celui de François Mitterrand, vous allez le découvrir sous un jour nouveau, celui révélé par les archives du magazine Paris Match. Enfance, vie politique, double vie sentimentale, les grandes dates de sa carrière racontées dans la curiosité.
Et puis on continue de vous raconter tout de suite ce tout premier festival de Cannes qui n'a jamais eu lieu.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Il y a 77 ans exactement, se préparait à Cannes le premier festival international du cinéma, un festival dont le rideau ne s'est jamais levé. C'est ce qu'on vous raconte ce soir avec l'historien Olivier Loub. Alors nous sommes à l'été 1939, cette idée a été actée, tout est préparé, c'est une contre-mostra et qui avait lieu à Venise en 1938. Donc là, on est en 39, on s'active. C'est les derniers préparatifs, en fait, pour ce premier festival de Cannes.
Oui, c'est la naissance d'une passion en 9 semaines et demie, il faut bien le dire.
Joli.
Mais c'est juste.
Ouais. Donc c'est l'urgence qui prédomine.
Ah oui, c'est une urgence et une passion, vous avez noté. Bon, l'urgence, elle est formidable parce qu'en fait, rien n'est prêt. Lorsque la décision politique est prise,
il n'y a que 2 mois pour préparer le festival.
Non seulement il n'y a que 2 mois, mais en plus, sur place, il se trouve que ceux qui ont des salles, par exemple, ne sont pas d'accord pour que ça passe dans leur salle. Il n'y a pas de lieu. Voilà. En commençant par ça, on n'a même pas le lieu du festival.
On ne sait même pas où ça va se tenir. Et puis, il y a des tractations. Vous nous avez dit que c'est une histoire franco-américaine, l'histoire de la création du festival de Cannes. Ça veut dire que jusqu'au règlement, jusqu'au code, ce qui va régir le fonctionnement, ça se négocie, c'est ça ?
Ça se négocie, c'est tout le charme des archives. Et on a les archives, si vous voulez, pour pouvoir en parler. En effet, on voit très bien que, par exemple, pour le règlement, les Américains donnent leur accord. Est-ce qu'ils sont moteurs ? Non, mais ils donnent leur accord au fait qu'ils bénéficient de la clause de la nation la plus avantagée, pour le dire comme ça. Ils vont avoir 12 films en compétition, par exemple, alors que les autres en ont 4. Pourquoi ? Parce que ça se fait au prorata de la production annuelle de films. Tout ça est très logique si on veut, mais très profitable malgré tout au cinéma américain. De la même façon, ils vont obtenir ce qui est le prototype des accords formidables de l'après-guerre, qui seront les accords Bloom-Burns. Ils vont obtenir le fait que leur film ne soit plus considéré comme contingenté à l'entrée sur le territoire français. L'AFCAN est bien une contre-mostra. Il se produit exactement l'inverse en France de ce qui a existé en Italie.
Et ce jury, alors, est-ce qu'il est comme aujourd'hui ? Il était comme aujourd'hui, prévu comme ça en 1939, international déjà ?
C'est un jury international, mais il n'a rien à voir avec ce qui existe de nos jours. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, les membres du jury sont des représentants des nations, sont des représentants des gouvernements.
Et moins glamour, vous voulez dire, alors ?
Oui, ça, on peut dire que le glamour est très bas à l'échelle du Festival de Cannes. Le glamour est sur les écrans, le glamour est avec les vedettes invitées. Pas dans le jury.
Non, c'est des commerciaux, des hommes d'affaires.
Ce sont des politiques, ce sont des représentants
gouvernementaux. Des fonctionnaires.
Ce sont des hauts fonctionnaires. Ouais. Parce que le règlement stipule, et c'est pour nous c'est assez stupéfiant, que justement il ne doit y avoir aucun professionnel du cinéma dans le jury. En fait, ça fonctionne par binôme. Il y a le représentant officiel d'un gouvernement, haut fonctionnaire, et il y a à côté de lui, mais sans aucune prise de part au vote, un représentant des milieux du cinéma de son pays.
Il y a déjà une palme d'or à cette époque, en 1939, pour ce premier festival de Cannes qui n'a jamais eu lieu.
On ne lui donne pas ce nom-là. Le nom de la palme d'or, elle est décernée à partir de 1955 jusqu'à 1963. Puis Robert Favlebré, qui est à ce moment-là le président du festival, trouve que c'est pas terrible. Donc il décide, ce qui est une surprise pour nous, d'abandonner la récompense sous la forme de palme d'or. Il revient à ce qui existe en 1939, un grand prix du festival de Cannes. Et c'est en 1975 que s'installe définitivement la Palme d'Or comme étant la récompense. Rétroactivement, on appelle tous les grands prix de Cannes des Palmes d'Or.
Aujourd'hui, oui. Qui préside ce premier festival de Cannes qui n'aura finalement pas lieu en 1939 ?
C'est Jean Zay. Ça montre bien que ce ministre, qui est le ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, c'est-à-dire de la culture, c'est-à-dire du cinéma, est le personnage majeur aux yeux des organisateurs et qui doit représenter la France, ou comme il le dit, le festival de Cannes, c'est un hommage de la France au cinéma. Mais il y a un président d'honneur qui est Louis Lumière.
C'est la caution artistique, en quelque sorte, on peut dire ça ?
Alors, c'est la caution artistique, c'est la grande figure tutélaire, c'est le rayonnement international. Bon, Louis Lumière, à l'époque, évidemment, pèse énormément, mais c'est déjà un vieux monsieur, malgré tout. Il a 75 ans et il est retiré des affaires du cinéma. Ça n'est plus un producteur, ça n'est pas un réalisateur, ça l'a jamais été d'ailleurs, etc. Donc non.
Alors je vous rappelle, Olivier Loub et puis Thomas, qu'on a donc une palme d'or, ou en tout cas des prix à remettre. On a Louis Lumière, on a un président du jury, un jury, et on a des films, mais on n'a pas de lieu pour le festival et pas de salle de projection. Là. Alors qu'est-ce qu'on fait ?
Qu'est-ce qui est décidé ? On décide dans l'urgence.
Je suis inquiète là.
Vous avez raison d'être inquiète, mais vous avez raison parce que, par exemple, il faut choisir les fauteuils. Ça, on a dans les budgets de Cannes 39, on les a encore dans les archives, le choix des fauteuils. C'est la maison Aubucheron qui est choisie. Aubucheron, ça augure assez mal de ce que serait la qualité artistique du festival. Bon. On a une solution quand même. Elle a été pensée un peu en amont. C'est d'affecter le grand hall du casino municipal de Cannes et de le transformer donc en salle de cinéma.
Mais il y a des cinémas dans la ville de Cannes.
Ah oui, il y a des cinémas.
On les utilise pas.
On ne peut pas. Les exploitants de l'époque ne souhaitent pas, que ce soit ceux de Cannes ou ceux de Nice, ne souhaitent pas que le festival se déroule dans leurs murs parce qu'il y a une partie de gratuité, parce qu'il y a une part de concurrence. Ils sont extrêmement hostiles, en fait, au départ. Ce sont les seuls qui envoient une lettre ouverte, publiée dans la presse, aux organisateurs pour leur dire « Nous ne voulons pas du festival tel qu'il est organisé.
» Alors ce festival...
Ils sont pas visionnaires.
Ouais.
Franchement, on peut le dire avec le recul du temps.
Vous espérez être invité à Cannes prochainement?
C'est pas grave, hein. Pose pas de problème.
Vous resterez sur la première marche.
C'est les descendants de ceux qui avaient envoyé la lettre qui tiennent toujours les cinémas.
Vous pourrez monter sur le tapis gris, le petit bout de tapis au début.
Hélas, beaucoup moins de salles de cinéma à Cannes qu'il n'en existe à l'époque.
Olivier Loubescan, en 1939, on imagine déjà une affiche. Pour faire la promotion de ce festival, c'est important déjà, comme outil promotionnel.
Non seulement on imagine, mais on réalise une affiche. Cette affiche s'appelle « L'invitation au voyage ». Bon, Baudelaire mis à part, cette invitation au voyage est une affiche qui, en fait, ne parle pas du tout de cinéma. Pour nous, c'est spectaculaire. Elle est réalisée par Jean-Gabriel Domergue, et très certainement, vous la verrez sur le site d'RTL, mais cette affiche-là, cette image-là, est une affiche qui parle d'une soirée de gala sur la French Riviera. Et on y voit une dame à dos nu et un monsieur à monocle assister à un spectacle qu'on pourrait tout à fait imaginer être un opéra à l'époque de Toulouse-Lautrec. On est dans ce type d'inspiration, une belle époque.
Ouais, donc on est déjà dans une atmosphère, on crée l'atmosphère du Festival de Cannes.
L'atmosphère du Festival de Cannes, d'emblée, est une atmosphère mondaine. Et le but, c'est d'installer le festival international dans l'idée que la France, dans ce qu'elle a de mieux, dans ce qu'elle a de plus remarquable, ce sont ses fêtes et ce niveau mondain inégalé dans le monde.
Alors, vous racontez cette histoire dans un livre, Olivier Loub, Cannes 1939, le festival qui n'a pas eu lieu, qui est publié chez Armand Collin. Et vous avez retrouvé, dans la préparation de ce livre, vous êtes historien, je le rappelle, vous avez retrouvé un film publicitaire tourné pour l'époque, pour ce festival.
Si seulement, comme disait tout à l'heure votre journaliste, j'avais retrouvé ce film-là. Mmh. En fait, j'ai retrouvé tous les éléments du film, sauf les bobines. C'est-à-dire que nous avons les photos de repérage, nous avons le texte qui a été prononcé, mais nous n'avons plus les bobines du film parce qu'elles ont été... Une grande enquête a été menée en 1947-48, parce qu'il y avait des droits et on voulait le retrouver. Elles ont été emportées par les Allemands en 1942. Donc, confisquée, prise dans ce qui était la pratique de l'époque. Peut-être existe-t-elle encore dans des archives allemandes, voire russes, concernant le cinéma.
Alors, quelles étaient, à la veille de ce premier festival de Cannes qui n'a jamais eu lieu, en tout cas les vedettes qui s'apprêtaient à monter ces fameuses...
Ah, il y a du glamour quand même.
Ah bah oui, mais ne dites rien. Revenez tout de suite, les curieux.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne, la guerre éclate et le tout premier festival de Cannes est annulé. C'est cet événement manqué, ce rendez-vous manqué que l'on vous raconte dans la curiosité avec l'historien Olivier Loub. Ce premier festival, Olivier Loub, était plein de promesses. On disait, il y a du glamour, il y a des stars, il y a des vedettes. Quelles sont-elles ?
Les vedettes sont là, effectivement. La MGM a fait un paquebot pour amener les vedettes, en particulier Clark Gable. Bon, ces vedettes sont là, il faut dire qu'elles sont là même avant que le festival existe. Par exemple, le grand événement People, dirions-nous de nos jours, oui, de l'été 1939, c'est le mariage entre Tyrone Power et une vedette française qui s'appelait Annabella, bien oubliée de nos jours, alors que Tyrone Power reste célèbre. Eh bien, que font Tyrone Power et Annabella? Ils passent leur lune de miel sur la French Riviera et en particulier dans le grand hôtel d'Henri Gendre à Cannes. Donc on a déjà une préfiguration.
Et qu'est-ce qu'il y a comme stars françaises du cinéma qui se préparent à participer à ce tout premier festival de Cannes en 39?
La star des stars de l'époque, malgré sa jeunesse, c'est Michel Morgan. Incontestablement. En 1939, elle vient de tourner dans Quai des Brumes et son rôle est extraordinaire, est repéré par tous, y compris par les réalisateurs étrangers. Elle va tourner dans Remorque de Grémillon juste après. C'est vraiment elle qu'on attend. C'est elle d'ailleurs que l'on retrouve dans les comptes et dans les budgets, même si ça paraît un peu trivial. On voit par exemple des repas offerts en l'honneur de Michel Morgan, et c'est elle est au sommet dans un des premiers sommets de sa carrière, parce qu'elle est toute jeune quand même.
Alors il y a les acteurs évidemment et les actrices, et puis il y a les films, parce qu'on vient voir des films à Cannes. D'ailleurs aujourd'hui, les sélections de films font beaucoup parler. Est-ce qu'en 1939, cette sélection de films, cette toute première, elle est divine, passionnante, ou elle fait déjà un peu polémique?
Elle est divine, passionnante, et elle fait polémique.
Ça, c'était un bon festival de Cannes, c'est dommage qu'il n'ait pas eu lieu.
C'était un
excellent
festival de Cannes, y compris pour faire du French bashing sur la sélection française, qui, c'est vrai, est assez médiocre par rapport à ce qui existait en 38 à Venise, ou même en 39 à Venise. Bon, remarquable, c'est la sélection américaine, par exemple, est absolument brillante.
Avec, par exemple... Le Magicien d'Oz, qui est sélectionné à Cannes en 1939. C'est pour ça que Judy Garland, elle est aussi évidemment parmi les invités.
Oui, absolument. Alors, Le Magicien d'Oz, c'est le film vedette américain, surtout parce qu'il obtiendra deux Oscars en 1940 pour la musique. Bon, c'est Autant en emporte le vent qui rafle tout le reste. En 1940, février 40, on résiste pas à Autant en emporte le vent, mais les deux Oscars musicaux sont pour Le Magicien d'Oz, Oz comme disent les cinéphiles, mais vous avez aussi Cary Grant à l'affiche avec Rita Hayworth dans un film qui s'appelle Seuls les anges ont des ailes, qui est un très beau film qui mériterait d'être revu et revu. Vous avez aussi Mr. Smith va au Sénat, qui est le grand film politique américain sur ce qu'est le parlementarisme et la démocratie, avec James Stewart. Enfin, la sélection est brillantissime, incontestablement.
Cécile B2000 aussi
Cécile B2000, oui, absolument, pour un film qui s'appelle Union Pacific, qui est un film, c'est un western à locomotive, pour le dire comme ça, hein, qui est une conquête de l'Ouest, qui est d'ailleurs obtenu le prix rétroactif en 2002.
Attendez, qu'est-ce que vous nous racontez là, le prix rétroactif? C'est-à-dire qu'on s'est dit, il faut quand même faire ce festival qui n'a pas eu lieu, le boucler, c'est ça?
Alors, c'est une drôle d'histoire, ça. C'est Jean d'Ormesson qui est à la tête de ce jury rétroactif de Cannes 39 en 2002, qui, hélas, ne va visionner que 7 films, quand même. C'est-à-dire que c'est un festival qui comptait une trentaine de films sélectionnés. Là, on ne peut en voir que 7, et ça donne Cécile B2000 primée. Bon, et puis deux prix pour des jeunes actrices qui sont, on est en 2002, Michelle Morgan et Judy Garland. Hein,
ça, c'est joli.
C'est très savoureux, bien sûr.
Olivier Loup, parmi ces films et cette sélection cannoise de 1939, il y a beaucoup de films qu'on appelle des films impériaux. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que ce sont des films dont le cadre se déroule dans les colonies. Et ces films impériaux, vous en avez à la fois du côté des Américains, Stanley Livingston, qui est d'ailleurs un très bon film, hein, mais vous en avez, avec Spencer Tracy, vous en avez aussi du côté anglais, avec un film qui s'appelle Les Quatre Plumes Blanches, de Zoltan Korda, et vous en avez les Belges, comme les Français en produisent. Bon, ce sont des films majeurs dans l'époque, en nombre en tout cas.
Olivier Loub, le 1er septembre, je l'ai dit à l'instant, la guerre est déclarée, mais il y avait tout le monde à Cannes. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait les comédiens qui étaient là, il y avait les organisateurs. Racontez-nous l'ambiance à Cannes à ce moment-là.
Ben non, en fait, le 1er septembre, il n'y avait plus personne.
Ils étaient partis
à partir du 22-23 août. Pourquoi? Le 22 août, vous avez un formidable gala qui est le bal des petits lits blancs. C'est le bal caritatif français qui va durer jusqu'à les années 60-70, hein, pour lequel on récolte de l'argent donc pour les hôpitaux. Eh bien, ce bal des petits lits blancs, il se tient le 22 août 1939 au Palm Beach de Cannes. C'est un spectacle extraordinaire. Vous avez 5 orchestres sur des plateaux, vous avez un gala de Fernandel et vous avez 1000 repas à 1000 francs. C'est ça le... Donc, sauf qu'à la fin du gala de Fernandel, un orage extraordinaire éclate. Et ce gala qui devait être l'avant-première du Festival de Cannes va être au fond la dernière manifestation de ce qu'aurait pu être le Festival de Cannes. Parce que dès le 23, c'est le pacte germano-soviétique. Ça signifie que dès le 23, le 24, vous avez des ordres de mobilisation générale. Et que donc vous avez à côté des affiches des galas de Festival de Cannes à venir, les toutes petites affiches, mais les plus importantes, qui sont blanches, avec des drapeaux bleu, blanc, rouge, qui sont celles de la mobilisation. Dès le 23, l'ambiance est bien, bien, bien descendue à Cannes.
Merci infiniment beaucoup pour ce formidable récit, Olivier Loub. Je rappelle que vous publiez, c'est passionnant, plein d'histoires encore à découvrir dans ce Cannes 1939, le festival qui n'a pas eu lieu, c'est chez Armand Collin. À bien vite.
Merci beaucoup
à vous.
Et maintenant, un président en photo, l'histoire de François Mitterrand racontée par ses clichés les plus célèbres ou les plus surprenants. Bonsoir Marc Brincourt.
Bonsoir.
Bienvenue. Merci. Vous êtes rédacteur en chef photo à Paris Match. Il aimait les photographes, François Mitterrand?
Je ne sais pas s'il aimait les photographes, mais enfin, en tout cas, il a su très tôt l'importance que pouvait avoir la photographie. Disons qu'il a su, il a vu ce que les précédents présidents ont fait. De Gaulle, Général de Gaulle, a même le seul et unique close-up qu'il a accordé à Paris Match.
Donc c'est un gros plan, un close-up?
Un vrai close-up, c'est-à-dire là on est à la boisserie et on a tout un reportage, c'est Mongeau, le photographe de match avec qui il était ami, et il a accordé le seul et unique close-up, c'est-à-dire qu'on est chez lui. Bon alors c'est... On sent que c'est pas son truc, il est un peu figé, il pose devant la cheminée, il est assis, il fait semblant de lire, tante Yvonne est à côté.
Et Mitterrand va s'inspirer de ça d'une certaine façon?
Oui, parce qu'après, vous savez, on a beaucoup critiqué Nicolas Sarkozy à une certaine époque d'avoir un peu rendu côté trop people la politique, mais finalement, si on regarde un peu dans le passé, les précédents ont fait la même chose. Et celui qui est le précurseur, c'est Georges Pompidou, qui, encore avec la complicité d'un photographe de Maj, qui s'appelait François Pagès, très tôt, il a fait rentrer le lecteur à l'intérieur de l'Élysée. Mmh. On voit des photos de lui en train de prendre le dîner le soir avec Claude, son épouse. On le voit chez lui, on le voit à la campagne, en train de bricoler son moteur. Enfin, on rentre dans la vie privée. C'est la façon qu'a Paris Maj de raconter la politique. Et ça, je crois que François Mitterrand l'a bien compris. Et à partir de là, il a donné certaines choses.
Ouais, et on va le raconter, le découvrir grâce à vous, Marc Brincourt. Olivier Loub, Mitterrand et le Festival de Cannes, vous avez une ou deux photos dans votre fond d'archives, c'est ça ?
On a une belle, nous, dans le...
Dans le fond d'archives, je ne sais pas, mais dans le fond de mémoire de tous ceux qui aiment le festival, on a cette photo de Mitterrand dans la fin des années 50 avec Brigitte Bardot. Hein.
Le regard de Mitterrand.
Daniel Mitterrand.
Daniel Mitterrand est dans l'axe.
Et on
un
voit
regard de cinéphile, rassurez-moi.
Complètement
cinéphile. Ouais.
Bien sûr, cinéphilique.
Non, vraiment, on voit. Elle est géniale, cette photo.
Ah, la photo est formidable. Ouais.
Eh bien, il y a plein de photos géniales à découvrir, des photos de François Mitterrand. Restez avec nous sur RTL. On va vous raconter sa vie, sa carrière politique, comme ça, d'un cliché à l'autre.